France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, la soirée peut-elle faire basculer l'élection ? Débat Macron-Le Pen ce soir à 4 jours du second tour. Dans les intentions de vote à ce stade, avantage Macron, mais rien n'est joué. Longue page dans ce journal sur les enjeux de ce débat. Et à 13h30, comment l'aborde-t-on dans le camp d'Emmanuel Macron ? La députée En Marche, présidente de la commission des lois à l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, est notre invitée. Toutes vos questions, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Le second tour dans 4 jours, mais les battues du 10 avril préparent déjà les législatives. Jean-Luc Mélenchon appelle les votants à l'élire Premier ministre. Éric Zemmour appelle à une grande coalition des droites. Dans l'actualité encore, l'Ukraine, plus de 5 millions de personnes ont quitté leur pays. Que sait-on de ces avions envoyés pour soutenir l'armée de l'air, selon les États-Unis ? Netflix, l'heure des doutes pour la plateforme de séries et films, elle veut booster sa rentabilité. Le foot, le PSG peut être champion dès ce soir, la journée est importante aussi pour les équipes de bas de tableau. Le cinéma, Corinne Pellissier vous a préparé sa sélection du mercredi. Et dans C'est une chanson, nous écouterons un titre de Prince, 6 ans après sa mort. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Combien de personnes regarderont le débat d'entre-deux-tours ce soir ? Celui d'il y a 5 ans avait réuni peu de monde pour un tel rendez-vous. 16,5 millions de personnes contre 30 millions pour Mitterrand Giscard en 81 ou Mitterrand Chirac 7 ans plus tard. Dans les dernières intentions de vote, Emmanuel Macron gagne un peu de terrain autour de 55%, mais on est très loin du résultat final de 2017. Il avait alors eu 32 points d'avance. Parmi les clés, l'abstention dimanche, elle était de 26% pour mémoire au premier tour. Alors quelles sont vos attentes avant ce débat ? Petit coup de sonde dans la Creuse à Guéret. Reportage Marion Ferrer, France Bleu Creuse.
L'écologie tout d'abord. Marc votera pour Emmanuel Macron, mais ce soir face à Marine Le Pen, il attend que le président candidat soit incisif et développe ses propositions pour le climat.
J'ai voté Mélenchon au premier tour. L'écologie semblait être absente du programme d'Emmanuel Macron. Je souhaitais un programme un peu plus vert en pensant à mes enfants.
Même priorité pour Gilles. Ce retraité n'est pas encore convaincu. Pour le moment, il compte voter blanc. Il espère du débat, des clarifications sur plusieurs points.
La santé et comment le gouvernement envisage de traiter si la pandémie redémarre. La situation en Ukraine, la position de l'OTAN, tout ça c'est intéressant, c'est inquiétant.
Autre point important, et Pierre nous le rappelle, c'est évidemment ce qui touche au porte-monnaie, le pouvoir d'achat.
Sur le social, quoi, pense un petit peu plus aux ouvriers. J'en attends un peu plus quand même.
Là-dessus, pour Sylvie, c'est Marine Le Pen qui se démarque. Mais cette quinquagénaire a encore besoin de se rassurer.
Si je choisis cet candidat, est-ce que c'est la France, soi-disant, elle serait en faillite ? On écoute ça, alors c'est vrai que ça laisse à réfléchir.
En 2017, 16,4 millions de téléspectateurs avaient regardé le débat d'entre-deux-tours.
Et le pouvoir d'achat, justement, sera le premier sujet abordé ce soir. Marine Le Pen prendra la parole d'abord et elle conclura 2h30 plus tard. Ainsi, on a décidé le tirage au sort. Chaque candidat aura un représentant dans la régie technique, là où se réalise l'émission. Après longue négociation, lorsqu'un des deux candidats parlera, par exemple, on pourra montrer l'autre en train de l'écouter, pas en train de lire ses notes. Alors qui accompagnera, épaulera, confortera les deux candidats avant et après les échanges ? Quelles seront les femmes et les hommes clés dans l'entourage de Marine Le Pen et Emmanuel Macron ? Pour en parler, un homme et une femme clé du service politique de France Inter. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Vous suivez la campagne d'Emmanuel Macron. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Vous suivez celle de Marine Le Pen. Commençons avec vous. Qui à ses côtés ce soir ?
Alors ce sera vraiment sa garde rapprochée. Une petite dizaine de personnes seront dans la loge et c'est vraiment eux hein, qui ont constitué le noyau dur de cette campagne. Des figures rassurantes d'abord, sa sœur Marie-Caroline, son beau-frère et conseiller spécial Philippe Olivier, sa fidèle attachée de presse Caroline Parmentier. Ses hommes de l'ombre aussi, son directeur de campagne Christophe Bell, l'ex-bras droit de Nicolas Dupont-Aignan Jean-Philippe Tanguy ou encore son précieux chef de cabinet Renaud Labaye. Et puis dans le cas Régie, vous en parliez, Laurent Jacobelli, porte-parole de la candidate mais surtout ancien homme de télé. Il sera chargé de surveiller la réalisation.
Voilà, côté Le Pen, Simon Le Baron, qu'en est-il côté Macron ?
Tiens bah, En régie, je vais commencer par
Allez-y.
Là, c'est le réalisateur Jérôme Revon, nom très connu du petit écran, comme on disait au XXe siècle, qui sera là pour superviser les plans de coupe, etc. En loge, il y aura là aussi une dizaine de personnes. Comme d'habitude, autour d'Emmanuel Macron, ce sera très masculin. Le grand Manitou de la communication, Clément Leonarduzzi, le ministre de l'Agriculture et celui des Outre-mer, tous deux directeurs officieux en quelque sorte de cette campagne, Julien de Normandie et Sébastien Lecornu, les grognards, François Bayrou et Richard Ferrand, la plume, Jonathan Guémas, et puis, bien sûr, l'épouse, Brigitte Macron.
Et c'est avec ces personnes, Simon, qu'Emmanuel Macron prépare le débat. Et ça fait plusieurs semaines.
Évidemment, même si Emmanuel Macron fait tout pour laisser penser que lui n'a pas besoin de bachoter, contrairement à son adversaire, en réalité, oui, ça a commencé avant même le premier tour. C'est Julien de Normandie qui centralise les fiches envoyées par les ministres sous l'œil d'Alexis Kohler, l'omniscient et très discret, il ne sera pas là ce soir, secrétaire général de l'Élysée. Mais plus que le fond, en fait, ce que cherche le président sortant, c'est la phrase choc qui restera dans l'histoire. Il ne l'avait pas trouvée en 2017, alors avec l'aide, entre autres, de son monsieur riposte Gabriel Attal, il tient absolument ce soir à faire mouche.
Élodie Forêt, à propos d'hommes ou femmes de l'ombre, on parle régulièrement des Horaces, ces hauts fonctionnaires qui auraient aidé Marine Le Pen à préparer son programme. On sait qui ils sont, combien ils sont.
Alors au RN, on aime bien cultiver le mystère autour de ce club officiellement constitué de chefs d'entreprise, d'énarques, comme ce haut fonctionnaire qui a joué le rôle d'Emmanuel Macron hier lors de la journée de préparation du débat. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que les Horaces se sont réunis pendant 4 ans très régulièrement avec Marine Le Pen. Parmi ceux qui assument, l'un des fondateurs, l'ancien chiraquien André Rouget, sa femme Florence Goulet, des techniciens aussi comme cet ancien conseiller de cabinet Hervé Fabre Aubrespy qui l'a aidé sur le volet régalien, ou encore le médecin Patrick Barriot. Des hommes de l'ombre destinés à le rester, aucun de ces noms ne sont considérés comme ministrables.
Aussi bien que Léa Salamé et Gilles Boulot, Simon Le Baron, Élodie Forêt, merci à tous les deux. Les thèmes abordés en principe ce soir, pouvoir d'achat donc, mais aussi sécurité, jeunesse, compétitivité, environnement, modèle social, gouvernance et international. Marine Le Pen sera-t-elle en difficulté sur ce point, alors que Vladimir Poutine vient de lancer une nouvelle phase de la guerre en Ukraine dans l'est du pays? Ses déclarations d'admiration passées pour Poutine, les votes des eurodéputés RN favorables au régime de Poutine, l'argent emprunté par son parti en Russie. La politique internationale, c'est la comparaison du jour entre les deux programmes. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour Bruno.
Et pour angler plus précisément, le rapport à l'OTAN, Marine Le Pen veut une France plus indépendante de l'OTAN.
Oui, elle avait même annoncé qu'elle voulait quitter le commandement intégré de l'Alliance tout en restant membre de l'OTAN, comme l'avait fait en 1966 le général de Gaulle. Marine Le Pen fait savoir que cette rupture, qui a duré jusqu'en 2009, n'a pas impliqué, selon elle, ni soumission vis-à-vis de Moscou, ni déloyauté à l'égard des alliés occidentaux de la France. Par principe, la candidate du RN refuse que l'armée française soit placée sous un commandement qui ne relève pas de la souveraineté nationale. Pour elle, sortir du commandement intégré de l'OTAN, c'est regagner en autonomie stratégique, sachant que la France dispose de sa propre dissuasion nucléaire pour se protéger.
De son côté, Emmanuel Macron redécouvre les vertus de l'Alliance Atlantique.
Oui, on se souvient qu'en 2019, il avait estimé que l'OTAN était désormais en mort cérébrale, ce qui avait irrité plusieurs pays européens. À l'époque, Emmanuel Macron était en colère contre la Turquie d'Erdogan, qui avait acheté des missiles S-400, système antiaérien russe, et qui avait envahi le nord-est de la Syrie, profitant du retrait américain décidé par Trump. Le président français n'avait pas été mis dans la confidence par ses deux alliés pourtant membres de l'OTAN. Avec la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron fait le constat que l'Alliance est redevenue le pilier naturel de la sécurité collective sur le vieux continent, même s'il plaide pour une défense européenne plus robuste et plus autonome.
La comparaison entre les deux programmes sur d'autres sujets, pour lire cela à tête reposée, vous trouverez des éléments sur franceinter.fr, rubrique à la une, onglet présidentiel 2022. Pour ce débat arbitré donc par Léa Salamé et Gilles Boulot, les moindres détails ont fait l'objet de négociations, même la climatisation à 19 degrés. Le détail, au fond, c'est ce qu'on ne remarque pas quand tout se passe bien. On le soigne pour éviter que ce qui est secondaire masque l'essentiel, le fond du discours. Ainsi, l'apparence des deux candidats, Sophie Constanzer.
Aucune étude ne permet de dire si l'apparence compte pour les téléspectateurs, mais un détail peut brouiller le message, selon Isabelle Verramasson, directrice de recherche au CNRS et spécialiste en communication politique.
Les vêtements, que ce soit le tailleur, la cravate, le maquillage aussi, ou les cheveux, probablement tout cela ne jouera pas un rôle décisif, mais personne n'a envie de prendre le risque que ces éléments là empêche le propos d'atteindre sa cible ou même soit détourné de son intention.
Lors du débat télévisé de 2017, les deux candidats avaient opté pour la même couleur, du bleu foncé. Costume pour Emmanuel Macron, veste et pantalon pour Marine Le Pen. Et c'est justement en tailleur que la représentante du Rassemblement national a choisi de mener campagne cette année. Pas de jupe pour Marine Le Pen, contrairement à l'ancienne finaliste à la présidentielle Ségolène Royal en 2007.
Ségolène Royal, mais il y a eu d'autres cas et à chaque fois on les a remarqués, qui d'une certaine manière acceptaient ou jouaient le fait qu'elles étaient des femmes. Et je crois que Marine Le Pen depuis le début, mais Valérie Pécresse également, n'ont jamais joué de leur féminité, arborant le plus souvent une sorte d'uniforme qui était assez proche du vêtement masculin, essayant d'être le plus neutre possible.
On devrait retrouver Emmanuel Macron en costume sombre et chemise blanche, comme lors de ses meetings de campagne. Neutralité donc des deux côtés.
Le débat c'est à 21h, retransmis sur France Inter et avant cela sur votre radio préférée. Téléphone sonne spécial avec Fabienne Sintès et ses invités entre 19h20 et 21h. Les deux candidats ont au moins un point commun, ils veulent relancer le nucléaire, prolonger la durée de vie des centrales existantes. Ce qui impose de donner toutes les garanties de sécurité. 24 des 56 réacteurs en France sont actuellement à l'arrêt pour maintenance. Pour une bonne partie, c'est une maintenance classique. Mais sur 5 d'entre eux, on a détecté des signes de corrosion sous contrainte. On procède actuellement à des vérifications sur 6 autres. Le problème est-il encore plus large que cela? Il pourrait concerner d'autres réacteurs, notamment le modèle le plus ancien et répandu en France, le 900 MW. L'inquiétude vient de la centrale de Chinon en Indre-et-Loire. Sandy Dauphin, il faut maintenant des analyses complémentaires.
Oui, jusqu'à présent, ce problème de corrosion sous contrainte a été détecté sur 5 gros réacteurs, les 1300, 1450 MW. Un phénomène complexe apparu sur les tuyauteries directement raccordées au circuit primaire principal du réacteur, des tuyauteries qui servent à injecter de l'eau en cas d'accident pour refroidir le cœur et arrêter la réaction nucléaire. Aujourd'hui, ce défaut de série pourrait concerner un autre modèle de réacteur, le 900 MW. Des contrôles supplémentaires sont en cours sur Chinon 3, explique Julien Collet, directeur général adjoint à l'autorité de sûreté nucléaire.
Chinon, c'est effectivement un réacteur sur lequel un contrôle qui avait été fait lors de la troisième visite décennale, vu d'aujourd'hui, suscite des doutes. On peut pas dire à ce stade s'il y a une fissure et si c'est de la corrosion sous contrainte. Donc la prochaine étape, ça va être de découper la portion de tuyauterie concernée pour l'expertiser en laboratoire.
Si le problème se confirme sur le réacteur de Chinon 3, il faudra se poser la question sur les 31 autres réacteurs de 900 MW.
Il y a des investigations qui se poursuivent pour connaître le périmètre exact, notamment le nombre de réacteurs concernés. Après, il faudra que EDF soit répare, soit justifie que le problème peut être traité de manière différée.
Si les réparations s'imposent, cela prendra du temps et aura forcément un impact sur l'approvisionnement électrique. À ce stade, EDF poursuit ses investigations.
On parle de l'Ukraine dans un instant. Le débat de ce soir se tiendra aussi dans un contexte économique influencé par la guerre en Ukraine. Dernier chiffre en date pour l'illustrer. Le marché automobile qui s'effondre en Europe. Les ventes de voitures neuves dégringolent de 20% en mars par rapport à 2021. Et même d'un tiers par rapport à 2019 avant le Covid. Aux difficultés d'approvisionnement liées au Covid s'ajoutent des pénuries de pièces venues d'Ukraine. Et les échanges de ce soir et même le second tour ne cloront pas les débats sur la politique économique et sociale à mener en France. Après le second tour s'ouvrira la campagne des législatives. Ce sont les 12 et 19 juin que l'on élira les députés. Et donc la majorité à l'Assemblée avec laquelle gouverneront le ou la future présidente. Et déjà, les battus du premier tour de la présidentielle se préparent pour ce troisième tour, en quelque sorte, les législatives. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Jean-Luc Mélenchon en particulier est entré de manière fracassante en campagne hier soir.
Élisez moi Premier ministre. Alors effectivement, c'est assez bravache et inattendu aussi de la part de l'insoumis qu'on avait déjà statué à la tête d'un think tank politique, la Fondation La Boétie, où le vieux sage aurait dû couler des jours tranquilles. Alors hier, on a eu nom, le lion qui envisage d'avaler toute la gauche, une bannière et une base programmatique commune proposée pour l'heure aux seuls écologistes, communistes et ONPA. Alors le Parti communiste a d'ores et déjà dit son accord. Les écologistes acceptent la discussion, tout comme les socialistes qui attendent toutefois leur coup de de fil. Jean-Luc Mélenchon utilise à plein pouvoir, les institutions d'une Ve République qu'il déteste pourtant, en joignant notamment le bloc populaire de gauche qu'il incarne, à voter massivement pour imposer aux futurs locataires de l'Élysée une cohabitation. La tortue sagace s'émeut en félin malin pour se créer une victoire dans ce qu'il entrevoit désormais, vous l'avez dit, comme un troisième tour de l'élection présidentielle.
On prépare, Laurence, les législatives à la France insoumise, mais aussi chez Éric Zemmour.
Une coalition des droites pour les législatives, voilà l'idée lancée par les lieutenants d'Éric Zemmour, Marion Maréchal, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, qui appellent donc à des négociations avec l'ensemble de la droite, DLR, ORN, pour une plateforme commune en vue des législatives. Une main tendue qui sent un peu le poison. Jugez-en plutôt par les termes employés, Marine Le Pen ne doit pas oublier les électeurs de droite dont elle aura besoin afin d'éviter qu'Emmanuel Macron dispose des pleins pouvoirs pendant 5 ans, une manière de lui prédire qu'elle ne sera pas présidente de la République.
La politique, on en reparle dans la deuxième partie de ce 13-14, invité à 13h30, la députée En Marche, présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet. Toutes vos questions avant ce débat, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Il y avait plus de 42 millions d'habitants en Ukraine avant la guerre, 45 si l'on inclut la Crimée. Eh bien, 5 millions d'habitants ont fui leur pays depuis le 24 février. Ce sont les derniers chiffres donnés ce matin par l'ONU. Après presque 8 semaines de guerre, les Russes vont-ils finalement prendre Marioupol, ce port sur la mer d'Azov qui leur permettrait de faire la jonction entre Donbass et Crimée? Nous vivons peut-être nos dernières heures, écrit sur Facebook un officier ukrainien de Marioupol. La Russie dit concentrer ses efforts pour la prise de la ville. Elle comptait cette ville plus de 400 000 habitants avant la guerre. Un accord pour la mise en place d'un couloir humanitaire pour évacuer les civils semble avoir été trouvé entre les deux parties, Nathanaël Charbonnier.
Et oui, l'objectif dans un premier temps serait de permettre à 6000 personnes de quitter la ville. Pour ce faire, 90 autocars seraient mis à disposition. Il faut savoir qu'il restera à Marioupol encore quelques 100 000 personnes qui résistent malgré l'encerclement de la ville par les Russes depuis le 24 février. À ce jour, on estime, vous l'avez dit, les chiffres tiennent, à 300 000 le nombre d'habitants évacués de la ville. Le précédent accord visant à créer un couloir humanitaire pour évacuer des civils de Marioupol date lui du 5 mars. Depuis, les tractations pour créer ce couloir humanitaire ont échoué à chaque fois, Russes et Ukrainiens s'accusant mutuellement de faire échouer les discussions. L'accord signé ce mercredi débute cet après-midi normalement, mais les associations humanitaires restent très prudentes et craignent un chantage russe qui accepterait de garantir ce couloir en échange de la réédition des soldats qui combattent, les autorités russes ayant ordonné par parallèlement aux derniers résistants ukrainiens de Marioupol de se rendre sous peine d'être tués. Enfin, encore un petit mot sur Marioupol. Selon les séparatistes russes cette fois, 5 militaires ukrainiens se seraient rendus et 140 civils auraient été évacués depuis ce matin.
Vu du point de vue russe, la prise de Marioupol permettrait de libérer des soldats pour le front de l'Est. Autre objectif de ce conflit qui atteindra ses 2 mois la semaine prochaine. Pour aider les Ukrainiens, la Norvège dit envoyer une centaine de missiles dans le pays. Et selon le porte-parole du ministère de la Défense américain, l'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l'air. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Bruno.
Que sait-on de ces envois?
Alors c'est une annonce du bout des lèvres du porte-parole du Pentagone, John Kirby, a d'abord parlé de plateformes et de pièces détachées livrées aux Ukrainiens. Et c'est seulement quand une journaliste lui a demandé ce qu'il entendait par plateforme qu'il a précisé qu'il était question d'avions. Pour l'ancien militaire et historien de la guerre, Michel Goya, invité ce matin de Nicolas Demorand et Yaël Gauss, il est désormais évident qu'une étape supplémentaire a été franchie dans la livraison d'armes de l'Occident à l'Ukraine.
La déclaration est assez ambiguë. On dit, voilà, les Ukrainiens ont plus d'avions qu'avant. On fournit des pièces détachées qui ont permis de remettre en état les avions. De la même façon, on fournit des hélicoptères aux Ukrainiens. Donc, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit en l'occurrence. Maintenant, ce qui est à peu près clair, c'est qu'il y a presque quasiment plus de limites dans le matériel que l'on envoie, notamment les Américains.
Dans la nature du matériel,
oui, voilà,
qu'on envoie.
On envoie le matériel. À la limite, pratiquement tout est possible maintenant.
Tout est possible donc, rien n'est vraiment très clair. Mais ce qui semble le plus probable, c'est que les États-Unis aient aidé à acheminer le matériel. Que les avions livrés soient de conception soviétique, vraisemblablement des MiG-29, des appareils que les pilotes ukrainiens maîtrisent. Et 3 pays de l'OTAN possèdent ce type de matériel. Il s'agit de la Pologne, de la Bulgarie et de la Slovaquie.
Et à nouveau un haut représentant, pardon, européen dans la capitale ukrainienne est présent en signe de soutien. Louis Michel, président du Conseil européen à Kiev aujourd'hui. aujourd'hui. À cause de cette guerre en Ukraine, les joueurs de tennis russes et biélorusses seront bannis de Wimbledon cet été. Information de Fabrice Abgral, spécialiste tennis à Radio France. D'ores et déjà, le Kremlin fait savoir que c'est inacceptable. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la justice britannique qui autorise formellement l'extradition de Julian Assange aux États-Unis. Les USA veulent juger l'homme des WikiLeaks, ces dizaines de milliers de documents classifiés sortis il y a 12 ans sur l'activité des soldats américains en Irak et en Afghanistan. La ministre de l'Intérieur britannique doit encore se prononcer sur l'extradition et restera un recours à Julian Assange devant la Haute Cour de justice. Le modèle Netflix est-il à un tournant? La plateforme de séries et de films vit elle aussi au rythme des grands événements internationaux. Elle avait bénéficié des mois de confinement devant les écrans. Les sanctions contre la Russie lui ont fait perdre d'un coup 700 000 abonnés. Même si cet événement ne dépend pas évidemment de Netflix, les investisseurs à la bourse, malgré tout, attendaient de meilleurs chiffres. Et lors des échanges électroniques hors séance après la clôture à New York, l'action Netflix a perdu 25%. Julien Baldacchino, même si on met de côté l'effet sanctions en Russie, Netflix doit revoir son modèle pour être plus rentable.
Oui, car même sans compter la Russie, Netflix a perdu 200 000 utilisateurs ce trimestre. Et ses prévisions pour les mois à venir ne sont pas plus optimistes. Moins 2 millions d'abonnés supplémentaires prévus au trimestre prochain. Alors pour mettre fin à cette baisse, Netflix va mettre en place de nouvelles stratégies. D'une part, une lutte plus forte contre la fraude. L'entreprise estime que plus de 100 millions de foyers accèdent aux films et aux services avec les codes de quelqu'un d'autre. Elle veut donc mieux contrôler ce partage de codes et en contrepartie proposer un supplément autour de 3 euros par utilisateur pour ceux qui veulent partager un même compte. L'autre arme de Netflix, c'est la publicité. Jusqu'ici, la firme avait toujours refusé l'idée d'un abonnement financé par la pub. Finalement, son patron Reed Hastings a annoncé travailler sur cette idée. Plutôt que de baisser le prix de ses abonnements actuels, le service proposera un abonnement moins cher mais avec des spots publicitaires avant le lancement des programmes, à la manière des plateformes de streaming musical. Une formule qui ne devrait pas voir le jour d'ici un an ou deux.
Un journaliste à l'histoire particulière fait face à ceux qui l'ont harcelé aujourd'hui au tribunal de Paris. Nicolas Hénin, otage de l'organisation État islamique pendant presque un an entre 2013 et 2014. Quelques années plus tard, 2019, il signale à Twitter le compte du père d'une victime de l'attaque du Bataclan. Cet homme appelle à fusiller les djihadistes et leurs enfants. Le signalement fait par Nicolas Hénin lui vaudra une campagne de haine en ligne. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
5 personnes répondent de leur message, 2 sont présentes aujourd'hui devant le tribunal.
Je n'ai jamais imaginé qu'un tel déferlement de violence soit possible, se souvient à la barre Nicolas Hénin. Il a reçu plus de 20 000 messages en 48 heures, de nombreuses références à son passé d'otage. Du sel dans la plaie, dit-il. Alors l'ex-journaliste exprime sa satisfaction d'être là dans cette salle d'audience, même s'ils ne sont que 2 à lui faire face. Ce jeune homme, d'abord 21 ans, allure soignée, poli. Lui, qui il y a 3 ans écrivait de Nicolas Hénin, c'est lui qui mérite l'exécution. Je lui présente mes excuses. J'étais en prépa sous pression. J'ai réagi dans la spontanéité. Vous vous êtes bien aperçu que vous n'étiez pas seul, questionne le président pour expliquer la qualification de harcèlement. Je ne pensais pas que monsieur Hénin puisse être sensible à ce type de tweet. Et puis il y a cette femme, 56 ans. Je souhaite que la prochaine victime de terroriste soit votre gosse, a-t-elle écrit. J'ai ressenti la douleur d'un père. J'ai voulu lui faire comprendre à ma façon, explique la prévenue, qui ne semble pas vraiment réaliser pourquoi elle est là, formule péniblement des excuses. Tous risquent jusqu'à 2 ans de prison, eux qui ont pu être repérés, car, précise le président, j'ai là 300 feuillets de personnes que l'on n'a pas pu identifier.
Ariane Grissel en direct du tribunal correctionnel de Paris. Nous passons à la page plus légère de ce journal. Mais passionnante, avec la sélection cinéma du mercredi. D'abord, bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Au programme aujourd'hui de l'aventure, un premier film et d'abord un documentaire XXL. Qui, à part nous, c'est une grande fresque universelle sur la jeunesse en Espagne.
Voilà, la vie secrète de nos ados décortiquée pendant 5 ans par le réalisateur Jonas Trueba, qu'on avait découvert en France avec ce très beau film Avant en août, sorti il y a 2 ans. Cette fois, c'est un documentaire qui met en scène une dizaine d'adolescents. On va les suivre pendant plus de 3 heures de leur entrée au lycée en 2016 jusqu'à aujourd'hui, quasiment avec toute une partie en visio à cause du Covid. C'est un projet ambitieux dans lequel il faut prendre le temps de s'installer, dépasser le moment un peu long des présentations. Oui, 3 heures, on a dit, hein, même un peu plus. C'est très différent dans l'approche de Sébastien Lifshitz et de son film Adolescente. On est là, cette fois, dans le documentaire, le journal intime et parfois même un peu la fiction, avec des moments commentés en voix off par le réal et par les jeunes. Ils évoquent à tour de rôle les sujets qui les animent, l'importance du look, de la bande, et puis plus tard les grands sujets de société, la politique ou ce que sera leur avenir demain. Alors qu'on s'apprête à voter chez nous pour le deuxième tour de la présidentielle, eh bien, je trouve que c'est assez intéressant de se plonger de manière comme ça un peu universelle via ce documentaire dans la tête des 18-20 ans.
Doc qui s'appelle donc Qui à part nous, au cinéma également ce mercredi, Corinne, Le secret de la cité perdue avec Sandra Bullock et Channing Tatum.
Alors là, c'est une comédie d'aventure assez loufoque qui revisite les grands classiques, Indiana Jones à la poursuite du diamant vert, ouais. Avec l'histoire d'une romancière embarquée malgré elle dans une chasse au trésor au bout du monde. Beaucoup de second degré, un casting aussi qui est super. Sandra Bullock en écrivaine perdue dans la jungle, en combinaison à paillettes roses et en talons de 12. Channing Tatum pour la sauver en faux monsieur musque un peu plotre. Et puis Brad Pitt, tellement drôle, en yogi macrobio qui se prend pour Rambo. Vous l'aurez compris, on est vraiment dans le pastiche et dans l'esprit série B, avec des situations toujours un peu ridicules. On pourrait presque aller plus loin, ce sera encore plus drôle. En tout cas, on passe un bon moment.
Et le dernier choix, c'est un film français, Le Monde Après Nous.
C'est un premier film, le réalisateur s'appelle Louda Ben Salah Kazada, c'est l'histoire qu'il nous raconte, eh bien, c'est un peu la sienne.
Qu'est-ce que t'écris en ce moment ?
Un roman. Tu crois vraiment que tu vas emmerder les lecteurs avec tes problèmes ? On a tous des problèmes. Et Christine Angot, elle nous a cassé les couilles. Le créneau, il est épuisé.
Alors, c'est l'histoire d'un jeune auteur fauché que l'on va suivre dans ses galères au quotidien et dans ses aspirations. Comment Labadie, son personnage, s'organise dans la vie pour écrire son premier livre entre une micro-coloc de 9 mètres carrés, un boulot de vendeur chez Deliveroo, les petites combines pour payer le loyer ou juste un café. À chaque étape, on est vraiment dans un sentiment de vécu. Toutes les postures que l'on prend pour cacher aux autres sa précarité, les grandes manœuvres pour s'en sortir. C'est un film ultra contemporain, instructif, sensible, sur les dérives d'une société qui de plus en plus maltraite les jeunes, on dirait.
Et cela s'appelle Le Monde Après Nous. Merci beaucoup Corinne Pellissier. Il va falloir choisir ce soir cinéma ou foot parce qu'il y a une journée de championnat de France en milieu de semaine, c'est assez rare. Et en plus, celle-ci, la 33e sur 38, est lourde d'enjeux. Le Paris Saint-Germain qui joue à Angers à 21h pourrait être sacré dès ce soir. Il suffit pour cela aux Parisiens qu'ils obtiennent un meilleur résultat que Marseille qui reçoit Nantes. Loin des sommets du classement, Cédric Guillou, la soirée est importante aussi pour ceux qui se battent pour rester en Ligue 1.
Avec Bordeaux-Saint-Etienne, Lorient-Metz et Troyes-Clermont, cette 33e journée propose des rendez-vous cruciaux pour les 6 plus mal classés de la Ligue 1, même si l'urgence n'est pas la même pour tout le monde. À Metz, dernier avec 6 points de retard sur le premier non relégable, la victoire à Lorient, 16e, est obligatoire pour continuer d'y croire. Benoît Thavenot est l'entraîneur adjoint du FC Metz.
Il faut gagner à Lorient. C'est un virage important aujourd'hui pour rester en vie. Aujourd'hui, on a une petite chance. Il faut regagner un match.
Une victoire qui fuit les Messins depuis la mi-janvier. L'autre relégable du moment, Bordeaux, a aussi besoin d'un bon résultat face à Saint-Etienne, 17e, pour espérer sortir de la zone rouge. Alors qu'à 3, 15e du classement, Bruno Herles, l'entraîneur, utilise des termes de match de coupe pour aborder cette dernière ligne droite, et notamment la rencontre de ce soir face à Clermont, qui est actuellement 18e et barragiste.
Nous, c'est beaucoup de finales, parce que c'est l'occasion d'aller prendre des points pour aller chercher ce maintien, il nous en manque. C'est une des finales avant d'aller chercher les points qui nous manquent.
Car à défaut de suspense dans la course au titre, la Ligue 1 offre de gros frissons dans le bas de classement en cette fin de saison.
Il faudra donc choisir ce soir ciné, foot ou débat, bien sûr. En ce qui concerne le championnat, les premiers matchs à 19h, les autres à 21h. Et on parle souvent en mal des supporters de foot quand il y a des actes de violence ou de racisme en tribune. Il y a aussi régulièrement de très beaux moments de communion. Ce que vous entendez là derrière moi, ce sont les supporters du Liverpool qui entonnent leur célèbre chant « You'll never walk alone », »,« Vous ne marcherez jamais seul ». D'habitude, c'est pour l'équipe de Liverpool. Hier, c'était pour un adversaire, Cristiano Ronaldo, star de Manchester, adversaire du soir, absent et pour cause. Il vient de perdre un enfant, un de ses deux jumeaux nouveau-nés. C'est à la 7e minute, le chiffre fétiche de Ronaldo, que les supporters ont entonné le chant « Frisson » dans le stade d'Anfield Road. La météo dans un instant.
France Inter aime
Machu Picchu et les trésors du Pérou. Une exposition exceptionnelle retraçant 3000 ans de civilisation précolombienne jusqu'aux Incas. Chefs-d'œuvre et objets symboliques, plus de 190 pièces originales réunies pour la première fois. Actuellement à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Palais de Chaillot à Paris. Plus d'infos sur franceinter.fr. Machu Picchu et les trésors du Pérou, un partenariat France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers.
Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Le programme des heures à venir, c'est pluie et fraîcheur dans le sud-ouest.
Oui, en relation avec une dépression de surface, prévoyez cet après-midi des pluies parfois soutenues, voire orageuses entre l'Aquitaine, le sud du Poitou-Charentes, le Limousin, l'Auvergne et jusque vers le Languedoc-Roussillon. Elles seront plus faibles et éparses du côté de Midi-Pyrénées. Et puis de la région PACA à la Corse, le ciel alternera de courtes éclaircies et de nombreux passages nuageux porteurs d'averses. En remontant vers les pays de la Loire, la Bretagne, le centre, l'Île-de-France et la Normandie, le soleil sera voilé par des nuages d'altitude. Le soleil va briller généreusement près des frontières du nord et du nord-est. Et puis côté température, les maximales évolueront entre 12 et 22 degrés. Sous la pluie dans le sud-ouest, n'attendez pas plus de 12 degrés à Tarbes, 13 à Saint-Jean-de-Luz, 14 à Toulouse et Bordeaux, 16 à Perpignan. Ailleurs, ça sera plus doux avec 20 à Rennes, Paris, Dijon et Montélimar, 21 à Marseille comme à Lyon et Nevers, puis on ira jusqu'à 22 degrés à Ajaccio.
Jean-Pierre Hameau, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Après avoir reçu hier Sébastien Chenu pour le Rassemblement National, invité du 13-14 aujourd'hui à quelques heures du débat d'entre-deux-tours, Yaël Braun-Pivet, députée en marche des Yvelines et présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Bonjour madame.
Bonjour.
01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique réagir pour les messages des auditeurs. Je voudrais commencer par celui de Denis. En début de mandat, Emmanuel Macron avait prévu de réduire l'influence de l'extrême droite à sa plus simple expression. À la fin du mandat, on retrouve l'extrême droite à 45% d'intention de vote. Qu'en dites-vous ?
C'est un échec collectif. Personne ne peut se satisfaire de cette montée des extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. On voit que on a réussi avec Emmanuel Macron et sa majorité à occuper un espace très central, très modéré, très progressiste.
À tel point qu'il lui a souvent été reproché de jouer le match uniquement macroniste extrême droite et du coup que le paysage autour, les modérés autour n'est pas voix au chapitre.
Bah, les modérés finalement c'est nous. C'est nous qui avons réussi à rassembler la droite modérée et les sociaux-démocrates de gauche. La difficulté, c'est que et le Parti socialiste et le Parti Les Républicains n'ont pas réussi à se reconstruire, à réoccuper l'espace qui est le leur. Et on voit aujourd'hui qu'on a notre espace central que l'on occupe et de chaque côté seulement des extrêmes. Nous ne pouvons pas être jugés responsables de l'absence de ces deux grands partis traditionnels que sont les Républicains et le Parti Socialiste. En revanche, nous voyons que nous avons réussi à agréger des responsables politiques autour de notre projet, autour de notre majorité. Nous sommes porteurs d'une voix de rassemblement et je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui s'en plaindre parce que cette voix de rassemblement, c'est ce que je crois veulent les Français.
Qu'attendez-vous du débat de ce soir, Yaël Braun-Pivet ?
J'attends un débat qui puisse très clairement montrer quels sont les projets des uns et des autres. On voit que dans le débat, Marine Le Pen notamment a pu paraître pour certains comme étant une modérée, plus modérée en tout cas qu'Éric Zemmour qui portait des thèses très radicales. Et certains ont pu oublier le projet qu'elle portait, quel était son projet, que ce soit en matière d'Europe, que ce soit en matière d'écologie, que ce soit en matière d'emploi, que ce soit en termes d'identité, en termes de démocratie. Et ce soir, c'est l'occasion de montrer quel est le projet que nous portons et quel est le projet qu'elle porte et qui ferait beaucoup de mal aux Français et à la France s'il était appliqué.
Est-ce que vous pensez que c'est le bon argument qui, au fond, est utilisé depuis des années et des années, faire peur avec l'extrême droite et Marine Le Pen ?
Vous savez, moi, je fais de la politique que depuis 5 ans et je suis une pragmatique, une femme de raison. Et il ne s'agit pas de faire peur avec...
Parce qu'on voit que ça marche de moins en moins et la campagne l'a montré.
Mais ça marche pas parce que nos compatriotes sont des gens sérieux qui ne votent pas sans faire attention à ce qu'ils votent. Et donc, moi, je crois qu'il faut les appeler à lire le programme de Marine Le Pen. Il est très détaillé. Il y a son site internet. Il y a chacune de ses propositions qui sont détaillées et ils verront à quel point son programme est dangereux. Dangereux pour nos valeurs, dangereux pour nos pays, notre pays, dangereux pour l'emploi, dangereux pour l'Europe.
Concrètement, prenez un exemple pour montrer si vous aviez quelqu'un en face de vous sur un marché pour dire le programme de Marine Le Pen est dangereux, très concrètement.
Très concrètement, quand Marine Le Pen propose la préférence nationale, Il s'agit très concrètement de revenir sur un principe fondamental sur lequel notre République est fondée, mais même au-delà de notre République, notre pays depuis la Déclaration des droits de l'homme, c'est le principe d'égalité. Aujourd'hui, ce principe d'égalité, si nous devions mettre en œuvre la préférence nationale, serait foulé aux pieds. Il n'existerait plus dans notre pays. Et je crois que ça, nos compatriotes ne le souhaitent pas.
Pierre, au standard de France Inter. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Vous nous appelez du Jura, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Oui. Bonjour.
Oui, ma question porte sur l'âge de départ à la retraite. Le candidat Macron a annoncé 65 ans. On trouve ça dans sa profession de foi. Depuis, comme il a besoin des voix de la gauche, il a parlé de 64 ans, de référendum, mais rien de précis. Hein, il n'a pris aucun engagement précis, il entretient le flou. Donc j'aimerais bien savoir où il en est sur ce point. Dans l'immédiat, moi je suis décidé à voter blanc. Et il est certain que si il maintient les 65 ans, s'il ne s'engage pas plus clairement, je n'ai aucune raison de changer d'avis.
Yaël Braun-Pivet, merci Pierre pour votre question.
Merci Pierre. Vous savez, l'objectif du président de la République candidat, c'est de préserver notre système et de le sauver. Le sauver parce que il y a de plus en plus de personnes retraitées, de personnes qui arrivent au grand âge.
Même s'il n'y a pas d'urgence financière à modifier le système de retraite.
Alors, concernant le système de retraite en lui-même, mais nous avons le financement de la dépendance à effectuer. On sait que c'est un grand défi et nous souhaitons tous que nos personnes âgées, les plus anciens, puissent vivre dignement jusqu'à la fin de leur vie. Et ça coûte de l'argent. Et pour pérenniser ce système des retraites et pour financer cette dépendance, nous avons besoin de prolonger l'âge de départ à la retraite. Le président de la République a effectivement proposé ce prolongement jusqu'à 65 ans et il est ouvert et c'est bien heureux puisque nous souhaitons faire de plus en plus de concertations, que ce soit avec les citoyens directement tels que vous Pierre ou avec les syndicats et les organisations patronales. Selon la discussion qui aura lieu, selon l'évolution de la situation, il a indiqué que les 65 ans n'étaient pas un totem ni un dogme et que cet âge pourrait être avancé sous réserve que les objectifs puissent être atteints.
Donc Yaël Braun-Pivet, il n'y aura pas de précision, si j'ose dire, de choses gravées dans le marbre ce soir lors du débat. On entendait Pierre qui nous dit 65 ans, je vote pas pour Macron, mais si les choses sont différentes, je peux voter pour lui. Il y a beaucoup de gens qui attendent des précisions dès ce soir. J'entends bien le côté, il faut qu'on concerte, mais il y a des gens qui attendent des précisions.
J'entends qu'il y a des gens qui attendent des précisions. Ils ont raison d'une façon générale. Il faut vraiment que les propositions soient précises, mais en même temps, on ne peut pas en appeler à la concertation, à l'écoute des uns et des autres et dire que tout est décidé à l'avance. Maintenant, je voudrais dire quand même à Pierre, par rapport à son vote, que s'il n'est pas satisfait pleinement des deux candidats qui sont présents au deuxième tour, malheureusement pour lui, en tout cas, il y a deux candidats. C'est le principe démocratique de notre pays et il va bien falloir choisir parce que lundi matin, il y aura un président ou une présidente de la République élue et je ne crois pas que ce choix soit indifférent.
Premier sujet abordé ce soir, le pouvoir d'achat, sujet qui a permis à Marine Le Pen de marquer des points avant le premier tour. Est-ce qu'il manque, côté Macron, de votre point de vue, Yaël Braun-Pivet, au fond, une mesure qui crante, comme on dit, qui imprime alors vous allez me dire, il y a eu les mesures pour le gaz et l'électricité, il y a eu la ristourne sur le carburant. On a l'impression qu'il manque une mesure dont on se dise, ah oui, ça, la mesure pouvoir d'achat de Macron, c'est celle-ci.
Alors, les mesures que vous citez, ce sont des mesures qui sont immédiates, qui sont rapides, et qui permettent à nos compatriotes de boucler les fins de mois, mais cette fin de mois. C'est important, on avait besoin de prendre ces mesures urgentes. Moi, dans le programme du candidat Macron, il y a une mesure pouvoir d'achat qui me paraît essentielle, c'est le versement social à la source. Pourquoi ? Parce que dans notre pays, nous avons des centaines de milliers, voire des millions de nos concitoyens qui ne touchent pas toutes les aides auxquelles ils ont droit. Ce sont les APL, c'est le RSA, c'est l'allocation adulte isolé, un certain nombre de versements qu'il faut demander. Moi, j'ai été responsable d'un centre des Restos du Cœur, j'ai vu des gens venir au Resto du Cœur alors que s'ils avaient demandé leurs aides, ils n'y seraient pas venus. Donc ça, c'est fondamental dans la vie de quelqu'un. Et le fait de dire ce versement aura lieu automatiquement, directement, sans que vous ayez à le demander, sans que vous ayez à remplir des formulaires, sans que vous ayez à fournir des documents, des photocopies, des scans, etc. Il y a plein de gens qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont loin de l'informatique, parce qu'ils sont loin des démarches administratives. Eh bien, pour toutes ces personnes-là, ça va réellement leur changer la vie.
À ce propos, question de Pablo au standard. Bonjour Pablo.
Oui, bonjour.
Vous êtes allocataire du RSA, je crois.
Voilà. Bonjour madame.
Bonjour.
Écoutez, voilà, moi je suis allocataire du RSA et j'aimerais savoir sous quelles conditions, en quelque sorte, je vais pouvoir conserver ce droit ou sinon, quel travail je vais être obligé de faire avec mes pauvres ressources.
Yael Braun-Pivet vous répond.
Oui Pablo, en fait il n'y a pas de travail que vous allez être obligé de faire. Il ne s'agit pas dans le projet d'avoir une contrepartie au RSA. Il s'agit en fait de pouvoir vous accompagner. Bien souvent, on se rend compte que les personnes qui touchent le RSA aujourd'hui le touchent depuis de longues années et qu'elles finalement elles n'ont pas d'espoir de s'en sortir. Elles n'ont pas d'avenir qui leur est offert d'insertion dans la société. Ce que nous souhaitons faire, c'est pouvoir vous offrir un accompagnement personnel. Que ce soit une formation, que ce soit un accompagnement dans des groupes de travail, du coaching, refaire un CV.
En aucun cas, ce serait un travail, ce serait uniquement de l'accompagnement.
Il n'est pas question que ce soit un travail type travail d'intérêt général. Le RSA, ce n'est pas une peine, il n'est pas question de cela. Il est question de faire en sorte que demain, vous n'ayez plus besoin de toucher le RSA parce que vous serez reparti dans le monde actif. Et je crois que ça, c'est le meilleur que l'on peut vous souhaiter. Personne ne peut souhaiter à quelqu'un de rester éternellement et durablement au RSA.
Mais il y a bien la notion de contrepartie, Yael Braun-Pivet.
C'est vraiment cette notion d'accompagnement. C'est un tout, mais c'est comme ça que cela avait été créé à l'origine. C'est un tout. On vous donne une certaine somme d'argent parce que il n'est pas concevable que vous n'ayez pas le minimum pour vivre, mais on ne se satisfait pas de ce minimum. On veut vous donner plus, et ce plus, c'est un accompagnement personnalisé. C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour nos jeunes avec la garantie jeune, c'est ce qu'on fait pour nos jeunes avec le contrat engagement jeune, et c'est ce qu'on veut faire pour tous les allocataires du RSA, pour que demain, vous ne soyez plus allocataire du RSA, que vous ayez retrouvé une activité professionnelle qui vous convienne qui vous permette de vivre beaucoup plus dignement.
Comment convaincre qu'un deuxième quinquennat Macron marquerait une démocratie plus horizontale, moins verticale, Yael Braun-Pivet? On peut lire ici ou là que c'est l'intention du président de la République, mais la Convention citoyenne, une bonne partie des propositions n'ont pas été reprises. Le grand débat, on ne sait pas ce que sont devenus les cahiers de doléances. Comment Emmanuel Macron peut-il convaincre que ce sera différent lors du second quinquennat?
Parce qu'on a appris. Parce qu'on a appris parfois de nos échecs, parce qu'on a appris parfois de notre carence, et qu'on voit que une réforme, quand elle est de très grande ampleur, elle n'est acceptée et elle ne peut aller jusqu'à son terme que si elle est partagée, que si elle a été construite avec les personnes qui sont engagées, que ce soit les élus, le Parlement, le CESE bien sûr, les élus territoriaux.
CESE, Conseil économique et social et environnemental.
Vous avez raison. Mais vous voyez, par exemple, on voit bien que la transition écologique, elle se fait que si chacun est engagé à son niveau, que si les maires sont engagés. Vous ne faites pas de piste cyclable
si vous n'avez pas les
maires avec vous.
Excellente opportunité, la Convention citoyenne. Juste une petite partie des propositions a été reprise.
Alors, une grande partie des propositions a été reprise.
On est loin de l'intégralité qui était promise.
Oui, mais parce que la Convention citoyenne, c'était une étape. Les citoyens ont délibéré et nous ont confié, si j'allais dire, le bébé au Parlement pour que l'on puisse travailler. Mais vous savez, aujourd'hui, quand le gouvernement...
Il y a une promesse qui n'a pas été tenue sur ce terrain-là.
Parce que le Parlement a délibéré, et c'est bien normal. Quand le gouvernement prend un projet de loi, le projet de loi rentre au Parlement, je peux vous assurer qu'il en sort modifié par le travail des parlementaires, Assemblée nationale ou Sénat. Et donc, la Convention citoyenne, nous avons pris les conclusions. Un certain nombre ont été appliquées immédiatement par le gouvernement. Et quant à celles qui ont été confiées à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous avons effectué le travail pour lequel nous sommes élus. Nous avons modifié le texte, mais parfois nous avons été plus loin que les conventionnés. Je crois qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres. Il ne faut pas opposer les citoyens avec leurs représentants. Notre enjeu démocratique, c'est de faire en sorte que cela se combine, que cela soit complémentaire pour que justement nous avancions ensemble. Et Marine Le Pen, justement, dans son projet, fait plutôt l'inverse et oppose les uns aux autres. Et
une dernière question standard, celle de Corinne. Bonjour Corinne.
Bonjour, j'aurais voulu savoir, donc depuis 5 ans que M. Macron est au pouvoir, on voit que les conditions de travail, notamment dans la santé et l'éducation nationale, périclite en fait. Et donc j'aurais voulu savoir ce que vous pouvez proposer aux fonctionnaires qui travaillent dans la santé et dans l'éducation nationale pour les remotiver face au manque de moyens auxquels ils doivent faire face. Pour exemple, les sages-femmes qui se sont mises en arrêt à la maternité de Nevers, par exemple.
Yael Braun-Pivet vous répond.
Oui, vous avez raison. Ce sont les deux grands chantiers que le président candidat veut ouvrir avec vous, avec les citoyens, avec les professionnels, pour trouver des solutions sur chaque territoire. J'ai entendu effectivement les sages-femmes de la maternité de Nevers. Là-bas, ils ont un manque de personnel criant. Nous proposons d'embaucher.
Ils sont passés de 26 à 14 en 2 ans.
Et nous proposons d'embaucher sur le quinquennat 50 000 personnels soignants pour justement redéployer partout sur le territoire suffisamment de personnes, mais chaque territoire étant différent, il faut construire les solutions en local, que ce soit pour l'éducation ou que ce soit pour la santé.
Yael Braun-Pivet, êtes-vous confiante pour l'issue du vote dimanche prochain ?
Écoutez, c'est comme toujours, un vote n'est jamais acquis tant qu'il n'a pas eu lieu. Donc pour le moment, je suis comme tous mes collègues en campagne de façon acharnée. Hier, j'étais à Vienne, demain dans les Yvelines. Il faut convaincre jusqu'au bout et je serai confiante quand je verrai les résultats.
Et, vous faites partie de ceux qui seront candidats à leur propre succession législative ?
Je pense, oui, continuer cette belle mission que m'ont confiée les concitoyens. En tout cas, j'espère.
Merci beaucoup d'être venu dans les studios de France Inter. 13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre d'ici à 14h. Le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Un débat entre les deux tours en 1965.
Non, avant le premier tour et à la radio. Entre Mendès France et Debré qui n'était pas candidat.
Ah, c'était avant le premier tour. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Il y aura aussi le feuilleton d'entre deux tours avec Yann Gallic. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Il y a 6 ans, la date exacte ce sera demain, le chanteur Prince mourait à l'âge de 57 ans. Un admirateur, artiste et biographe est à votre micro aujourd'hui, le plasticien Gérard Petit qui publie un livre intitulé Prince.
Gérald Petit qui publie ce portrait très documenté, très personnel du chanteur, son travail, ses excès, ses errances, son génie. Et c'est d'abord de sa découverte de Prince, sa rencontre avec Prince que m'a parlé Gérald Petit.
La rencontre, elle a eu lieu quand j'ai eu 15 ou 16 ans. Et ça a été un choc, en fait. Ça a été une espèce de figure d'une telle liberté, une telle extravagance, une telle arrogance aussi même. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup fasciné. Et c'est vrai qu'il a été déterminant dans mon choix d'orientation. Je suis devenu artiste parce que Prince m'a montré une voie. Alors, c'était pas la musique. Je suis plutôt allé du côté des arts plastiques, pour le coup, et de la peinture dans un premier temps. Mais je pense que à la fois son parcours et son récit m'ont donné confiance pour devenir artiste. J'avais envie de me raconter des histoires et il m'a donné confiance pour le faire. Donc voilà, ça a été un déclic.
Et cette chanson qui n'est pas la plus célèbre de Prince, Frédéric, a pour titre 17 Days.
Une chanson parue en 1984 en face B du single de When Doves Cry. Et comme dans un autre titre sorti la même année, il y est beaucoup question de pluie.
17 Days, c'est une bluette en fait. Ça parle de l'absence, de la rupture amoureuse, de cette pluie qui coule sur ce long moment d'absence de l'être aimé. C'est un chagrin d'amour assez banal, qui est vraiment très fréquent dans le catalogue de la musique populaire, mais qui est amené là sur un morceau qui a un tempo plutôt entraînant. C'est un funk qui est très caractéristique aussi du son que Prince invente au détour des années 82, 83, 84, qui ressemble à ce qui va s'appeler après le Minneapolis Sound. Et 17 Days s'est construit vraiment sur une ligne de basse qui est très chaloupée, qui est très rythmique. C'est quasiment une ligne mélodique tout le long du morceau. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que à côté de ce funk très rythmique, il y a ce texte qui est très flegmatique. Et moi, j'écoutais souvent ce morceau Walkman quand j'étais en vacances au Portugal. quasiment tous les étés parce que j'en suis originaire. Et c'était sous une espèce de cagnard et de ciel absolument bleu azur que j'écoutais cette complainte sous la pluie, en fait.
Et là, c'est une autre version de la chanson que Gérald Petit souhaitait qu'on entende également, une version sortie en 2018, autrement dit 2 ans après la mort de Priest. Elle était inédite jusque-là, mais c'est l'enregistrement d'une séance de travail en studio datant de 1983.
Donc c'est un enregistrement qui n'était pas censé devenir public, a priori. Et là, on découvre un Prince au travail. Et c'est un Prince qui est en train de roder ses morceaux, il les vérifie. Et je parlais à l'instant du fait que dans la version publique, la chanson ressemble à une bluette. Et cette version-là, c'est un vrai blues, avec quelque chose de beaucoup plus profond, de plus marqué sentimentalement. Et on a l'impression que c'est un artiste beaucoup plus mature qui la délivre, alors qu'en fait la version précède la première dont j'ai parlé. Big old 17 days, 17 long nights. Oh, it's a drag, babe, I know, hold another nigga tight.
Maintenant que vous connaissez ces deux versions, est-ce qu'il y en a une qui vous touche plus que l'autre ?
Oui, j'ai beaucoup plus de sensibilité pour la version acoustique, pour sa qualité musicale, mais aussi parce qu'elle a surgi à un moment où on ne s'y attendait pas.
Parce qu'il n'était plus là ?
Parce qu'il n'était plus là, oui. Ces quelques minutes de piano-voix suffisent à elles seules à dire à quel point ce type était exceptionnel.
Incroyable cette version. 17 Days, c'était donc Frédéric, le choix de l'artiste Gérald Petit.
Qui vient de publier Prince, un portrait du chanteur, c'est aux éditions Les Pérégrines, dans la collection Icônes.
À vendredi. Et oui, à vendredi, parce que demain, le 13-14 se déplace à nouveau. Je vous raconte dans un instant. Cette semaine, le feuilleton de l'entre-deux-tours est en Eure-et-Loir. Dans ce département, Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour, 28% des voix, juste devant Emmanuel Macron. La candidate d'extrême droite a été plébiscitée dans de nombreuses communes rurales. Exemple à Allonne, près de Chartres, où s'est rendu Yann Gallic, village de 320 habitants. Marine Le Pen a recueilli 46% des suffrages au premier tour.
Nous sommes dans l'un des lotissements de la commune d'Allonne, un lotissement assez récent avec quelques dizaines de maisons, entouré de petits jardins dissimulés derrière des haies parfaitement taillées. Ici, la plupart des habitants ont voté pour Marine Le Pen. Vous vous appelez comment ?
William, je suis tout seul à la retraite, ma femme ne travaille plus, elle est malade.
J'ai des problèmes de santé, oui, je suis diabétique, j'ai une insuffisance rénale.
Vous avez quel âge ?
J'ai 62 bientôt.
Donc votre mari est à la retraite, vous, vous êtes en arrêt maladie ?
Je travaille plus, c'est tout.
Vous vivez avec combien par mois ?
1400, 1500 euros par mois.
Vous avez voté Marine Le Pen au premier tour ?
Oui, oui, premier tour Marine Le Pen et deuxième tour Marine Le Pen.
Pourquoi avoir choisi Marine Le Pen ?
Parce que elle va peut-être faire des trucs peut-être mieux par rapport déjà au pouvoir d'achat, tout augmente, l'essence.
La bouffe, tout ça, l'électricité, le gaz, tout ça, ça remonte.
Et nous, la paye, elle est toujours pareille.
On se prive, on n'en veut plus hausser les mains.
Ça, c'est ma première voiture. Ça fait 13 ans qu'on l'a. On ne peut même pas s'en racheter une.
De toute façon, il faut qu'on change de président, mais pour moi, c'est Le Pen qui va penser. Hein. Comme on dit, il faut faire un essai. Il faut changer un peu la politique qui ne s'occupe de nous, qui s'occupe des personnes âgées, tout ça.
Nous, on espère qu'elle arrive au bout.
Bonjour, madame. Je fais un petit reportage à Allonne sur la présidentielle.
De toute façon, ça va être l'un ou l'autre, à mon avis. Oui. On n'a plus le choix. Hein.
Ah, ben, ça, c'est sûr. Ce sera soit Marine Le Pen, soit Emmanuel Macron. Vous avez une préférence, quand même ?
Franchement, j'hésite, oui.
Mais vous seriez prête à voter pour Marine Le Pen dimanche ?
Oui, pourquoi pas ? Elle a changé par rapport à 2017. Elle me fait plus peur. Voilà.
Nous arrivons chez Marcel Boulanger, le maire adjoint de la commune. Un ancien artisan qui est aujourd'hui à la retraite.
Allez-y, après.
Je vous suis.
Alors là, Marcel Boulanger, on est dans votre atelier.
Exactement.
Vous étiez réparateur d'horloges, de montres, de...
De tout, tout ce qui était horlogerie, dans les édifices, les cathédrales, les musées.
Comment vous expliquez ce succès de Marine Le Pen dans votre petite commune ?
Ben, disons que ça, ça a toujours été, hein, depuis que moi j'habite là depuis très longtemps, ça a toujours été l'extrême droite qui remporte, sans justificatif, puisque on n'a pas de problème, on n'a pas de, rien de spécial. Je comprends pas, là. Surtout que la commune fait beaucoup de social, on fait plein de choses pour les gens gratuitement. C'est là où on comprend pas. Pourquoi ?
Dans beaucoup de petites communes rurales, Marine Le Pen arrive en tête. C'est peut-être aussi un signe que ces communes se sentent un peu délaissées par l'État, par les politiques.
On n'est pas plus délaissés que les autres. Hein. Il y a l'école, qui est rare quand même dans une petite commune. Il y a la salle des fêtes, l'église, tout ça c'est refait, c'est en état, tout est bien. Bon, c'est vrai, on n'a pas de boucher, on n'a pas de boulanger, mais on a tout à côté à 7 km autour de nous. Il en faudrait peut-être un autre président à la rigueur, plus dur. Parce qu'on a besoin de botter les fesses aux Français quand même. Malheureusement, j'ai peur que peut-être avec Marine Le Pen, ça soit un peu trop extrême.
Voilà pour ce reportage de Yann Gallic à Allonne dans l'Eure-et-Loire. Nous serons demain le 13-14 à Châteaudun, dont la particularité est d'avoir voté quasiment comme la moyenne des Français. Et nous examinerons les réactions après le débat et puis les enjeux à quelques jours du second tour de la présidentielle.
France Inter. Le 13-14.
Et dans le vif de l'histoire avec vous aujourd'hui, Jean Lebrun, petite histoire, voire archéologie du débat présidentiel. L'histoire retient que le premier débat d'entre-deux-tours, proprement dit, c'est Giscard Mitterrand en 74. Mais il y a eu un débat en 1965, alors que De Gaulle avait été contraint à un second tour. Alors il faut rappeler d'abord le climat politique et médiatique en cette année 65.
Et notamment avant le premier tour, parce que ce que dégustent les Français, ce sont les spots télévisés ou les spots sur France Inter. C'est une nouveauté. 2 heures pour chacun des 6 candidats, mais De Gaulle ne les utilise pratiquement pas parce qu'il est assuré de sa réélection, mais le Canuet surgit au centre et Mitterrand empile les petits succès à gauche. Naît alors l'idée d'un débat, non pas avec le général inaccessible, mais au moins avec deux représentants des deux principaux candidats.
Et à la radio.
Et à la radio, oui, parce que c'est pas du tout la même époque qu'aujourd'hui. Figurez-vous que en 1965, Europe est plus libre d'esprit que France Inter. Et c'est Europe qui propose le débat à Mendès France. L'ancien chef du gouvernement exemplaire de 1954 n'occupe plus de fonction élective depuis le début de la 5e. Il refuse le principe de la présidentielle au suffrage universel. Il a néanmoins annoncé qu'il soutenait la candidature de Mitterrand. Mitterrand qu'il appelle avec respect président. Mendès, lui, dit Mitterrand. Mitterrand et Mendès vont faire équipe. Et en face, Europe va choisir Michel Debré, l'incarnation de la fidélité gaullienne, premier ministre jusqu'en 62. Il est maintenant député de La Réunion, alors cet éloignement relatif contribue à sa réputation de hauteur de vue.
Mendès contre Debré, donc comment la confrontation va-t-elle s'organiser ?
Ah bah c'est pas du tout la même époque qu'aujourd'hui. C'est pas non plus le même régime d'attention qu'en 2022. En 1965, 2 heures multipliées par 3 séances entre le 22 novembre et le 1er décembre, début à 21h ou parfois à 13h30 à votre heure, Bruno.
Ce qui nous fait 6 heures de débat en tout,
au moins, oui.
Avec 3 chapitres importants comme aujourd'hui d'ailleurs, pouvoir d'achat, tiens donc, Europe et institutions.
Pour lutter contre l'inflation, le ministre des Finances, Giscard d'Estaing, avait installé un plan de stabilisation que Mendès accuse de châtier injustement les salariés les plus modestes. L'Europe, ben Mendès en est arrivé à défendre les transferts de souveraineté, beaucoup plus que Debré. La République et les institutions, Mendès souhaite une société moderne qui ferait participer sans cesse le citoyen à la décision. Or, dit-il, nous sommes seulement invité à intervalles lointains à donner un blanc-seing à une personne pour son charme, ses talents de communication, ses qualités télégéniques. Mendès prophétise que ce système, eh ben, ça va mal finir tôt ou tard.
Est-ce que ce débat de 1965 a eu des conséquences ?
Bah, Mitterrand s'en est sans doute trouvé un peu renforcé. Ça peut jouer sur un demi-point ou un point. Et puis, Debré a bien mérité du gaullisme et il retrouve un portefeuille ministériel quand De Gaulle est réélu. Et les deux partenaires ayant parlé comme des livres, ont fait de leurs échanges un assez fort volume qui vient d'ailleurs d'être réédité par les éditions de l'Histoire.
L'idée n'en viendrait pas pour les débats tels qu'ils sont organisés à partir de 1974 selon le modèle américain.
Bah oui, parce que l'image et la mise en scène dominent. Remarquez que l'image ne rend pas compte de tout. 1974, Mitterrand commence par attaquer sur le pouvoir d'achat. Et Giscard finit par lui dire « Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur, j'en ai un aussi qui bat à son rythme. » Alors on n'en peut plus d'entendre rebattre cette histoire. Mais quelques instants auparavant, personne n'avait remarqué ceci. Giscard, élu d'Auvergne, avait parlé incidemment, mine de rien, d'une ville, Clermont-Ferrand, que je connais bien, avait-il dit, il avait ajouté une ville qui vous connaît bien. La caméra n'avait pas montré le visage de Mitterrand à cet instant, où Giscard le prévenait, attention, hein, votre relation avec Anne Pinjot, enfant de Clermont-Ferrand, elle est connue de moi. À vous d'imaginer le parti que je peux en tirer. C'est bien ça que Mendès reprochait à la présidentielle au suffrage universel. Surexposée, elle est aussi dissimulatrice.
Jean Lebrun, le vif de l'Histoire. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré dans un instant. Quel est le programme?
On va parler d'une nouvelle pratique avec les abattoirs mobiles.
À tout de suite.
Le coronavirus circule encore. Les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles sont plus à risque de développer une forme grave de Covid-19. Pour elles et pour leur entourage, il est recommandé de continuer à porter le masque à l'intérieur ou dans les rassemblements. Ensemble, restons prudents. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Il est 14h. Les dernières informations, Laetitia Gaillet.